Fragile, association d'éducation aux médias. Merwan est salarié chez Fragile, association d'éducation aux médias et au numérique. Il défend un accès pour tous à la parole médiatique. Fragile possède ainsi son propre webzine dont l'équipe de rédaction est à 100% bénévole et citoyenne.
Chez Fragile, on considère que les contributeurs et contributrices qui alimentent le magazine sont journalistes.
En opposition avec ce discours, Ludovic B. crée et diffuse de l'information en format vidéo sur Internet. Il décrypte les stratégies économiques et éditoriales des chaînes d'information les plus populaires, vulgarise ses analyses pour son public et tourne ses propres reportages en immersion. Pourtant, comme il le souligne dans l'épisode 19 de son émission YouTube versus la télé, Ludovic B. ne se considère pas lui-même comme journaliste.
Faire du journalisme ne veut pas dire être journaliste. En réalité, c'est normal que j'étais journaliste à l'époque chez TF1 et que je ne le sois plus aujourd'hui.
Mais du coup, c'est quoi au juste être journaliste? Ici, on va tenter de répondre à cette question en comparant le journalisme tel qu'il est vu par les salariés de Fragile et le journalisme tel qu'il est conçu par les membres de la profession. Est-ce que le journaliste, c'est seulement un statut officiel? Un journaliste digne de ce nom ne doit-il pas appliquer une certaine méthode de travail? Doit-il ou non être un érudit, une personne qui possède des connaissances étendues sur le monde et qu'il fait partager au reste des citoyens? Doit-on avoir fait une école de journalisme? Et quel rôle joue la carte de presse dans tout ça? Finalement, faire du journalisme n'est-il pas aussi un moyen d'être citoyen? Et dans ce cas, ne devrait-on pas permettre à tout le monde d'être journaliste? Moi, c'est Audrey, étudiante au Centre Nantais de Journalisme et stagiaire chez Fragile. Le journalisme, c'est quoi? On vous explique tout.
Je ne suis peut-être que des initiales sous trois colonnes écrites la veille. On me lit bien trop en diagonale. Je finis souvent à la corbeille.
Xavier Baudin-Hulin, j'ai 59 ans, j'ai été journaliste professionnel pendant plus de 20 ans et actuellement je suis intervenant auprès du CNJ 44, le Centre Nantais de Journalisme qui s'est créé à Nantes il y a moins de 2 ans. C'est comme ça que je démarre mon cours de déontologie à chaque fois avec mes nouveaux étudiants. Je dis au fait, c'est quoi un journaliste? Est-ce que c'est quelqu'un qui est diplômé, comme un médecin ne peut pas être médecin s'il n'est pas diplômé? Bah non, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on peut être journaliste sans forcément avoir un diplôme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est du coup est reconnu par sa profession, qui a une carte de presse? Bah non, pas forcément, parce qu'une carte de presse, c'est pas indispensable, on n'est pas obligé de la demander, et puis on peut avoir une âme de journaliste sans forcément avoir la carte.
Alors déjà, d'un point de vue purement légal, le Code du travail définit le journaliste selon deux critères. Ce dernier doit travailler dans une entreprise de presse et doit en retirer plus de 50% de ses revenus. La carte de presse, quant à elle, est un document permettant aux journalistes de prouver leur activité, donc elle peut légitimer dans un certain sens le statut professionnel. Or, beaucoup de journalistes sont employés dans un organe de presse sans la détenir, ce qui ne fait pas moins d'eux, légalement en tout cas, des journalistes. De plus, pour l'obtenir, il faut prouver que l'on travaille dans une entreprise de presse. Or, si l'obtention de cette carte est tributaire et vient a posteriori de la pratique du métier, elle ne peut donc pas en être un élément de définition. Moi, la définition du Code du travail, je la trouve très rudimentaire. Elle ne dit en effet rien des tâches que doit accomplir le journaliste. Diffuser de l'information, pas vrai? Mais l'information, ça peut être un mensonge. Et oui, ce flou artistique autour de ce qu'est et de ce que n'est pas une information, les journaux en ont longtemps joué, comme en atteste l'adaptation toute récente par le cinéaste Xavier Giannoli des Illusions perdues, un roman écrit par Honoré de Balzac au XIXe siècle. Les Illusions perdues, c'est l'histoire de Lucien de Rubempré, un jeune poète qui part vivre sur Paris et y découvre que la société entière est corrompue par le système économique, y compris la presse, dans laquelle on peut dire tout et n'importe quoi du moment que l'information se vend. Alors, pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que ce film se révèle le miroir de ce qu'étaient les médias à cette époque. Un flux continu de désinformation destiné à susciter la colère, le rire ou la curiosité malsaine du public, à conforter un gouvernement, etc. On le sait bien, l'émotion, ça fait vendre. Ensuite, la guerre éclate. La presse devient alors une arme de propagande. Et pourtant, les personnes qui produisent de la désinformation sont encore appelées journalistes. Ce qui revient mettre de l'ordre dans tout ça, c'est la charte éthique professionnelle du journaliste en 1918. Cette dernière stipule ce que doit faire et ce que ne doit pas faire un journaliste digne de ce nom. C'est la naissance de la déontologie journalistique, autrement dit, la morale professionnelle. Entre autres, elle stipule qu'il faut vérifier les faits que l'on diffuse, ne pas déformer la réalité et ne pas publier d'informations au bénéfice d'une entreprise ou de l'État dans un but purement mercantile. Ensuite, la démocratisation des réseaux sociaux et des blogs dans les années 2010 a permis à des personnes non journalistes de s'emparer des moyens de diffusion de l'information, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Alors cet événement, inédit dans l'histoire des médias, soulève surtout la question suivante. À partir du moment où je publie de l'information conforme à ces exigences, quand bien même je ne travaille pas dans un organe de presse, pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être appelé journaliste ? Est-ce que le journalisme n'est qu'un métier ou est-ce que c'est bien plus que ça ? Pour François-Xavier, salarié de l'association, faire du journalisme, c'est d'abord respecter plusieurs étapes lors de la construction de son information.
La manière dont on l'aborde, c'est surtout au niveau de la méthode utilisée. Chez Fragile, ce qu'on défend, c'est l'idée d'aller chercher de l'information, la vérifier et la diffuser. Et à travers en fait, ces trois grands axes, et ben, quand on fait ces trois choses de manière honnête, et ben, on fait du journalisme. Être journaliste, c'est aussi un métier, mais ça n'est pas qu'un métier. En fait. On peut totalement tous être journalistes, pour moi. Mais on peut tous et toutes être de bons ou de mauvais guitaristes, comme on peut tous et toutes être de bons ou de mauvais journalistes. L'association, donc à travers des ateliers d'éducation aux médias, on va passer par le fait de faire du journalisme pour comprendre ce qu'est le journalisme.
Selon la philosophie de l'association, le journalisme, c'est d'abord une forme de recherche et d'investigation. C'est pourquoi il est primordial pour un journaliste de savoir poser des questions, comme l'atteste Romane, elle aussi salariée de Fragile.
L'interview, ça, c'est quand même la base. Au-delà de vérifier, il faut vérifier, mais avant, il faut interviewer, poser des questions. Il y a recherche, interview, croisement des sources, vérification et divulgation. Voilà, pour moi, il y a journalisme.
J'ai posé cette même question à des journalistes professionnels. À savoir, c'est quoi pour vous un journaliste ? Il me semble intéressant de souligner que c'était bien cette même méthode de recherche, de vérification et de diffusion de l'information qui était mise en avant en premier lieu. Voici par exemple la réponse de Cyril Lefebvre, journaliste d'entreprise et intervenant au Centre Nantais de Journalisme.
Comprendre une situation, donner la parole aux acteurs justement de cette situation dont on parle et pour tout ça pour restituer au public. Être un passeur de l'information avec une certaine rigueur en recoupant les informations.
Les professionnels de l'information n'ont donc pas une vision du journalisme si éloignée que ça de celle de l'association Fragile, puisque ce qui leur semble le plus important dans leur travail, c'est la curiosité d'aller chercher l'information et le recul nécessaire pour la vérifier et la traiter. Maintenant qu'on a vu que Fragile et les journalistes que j'ai interrogés partagent la même déontologie, celle de la charte de 1918 que j'ai mentionnée plus tôt, on va voir si le journaliste amateur doit être différencié du journaliste professionnel. Et c'est peut-être là que les choses se compliquent. En effet, on peut noter d'une part un point de désaccord sur le niveau de culture que doit posséder un journaliste en amont de sa pratique. Et j'insiste bien sur le terme « en amont ». Fragile défend la possibilité pour ses contributeurs d'être appelés journalistes, même sans être des spécialistes, en termes de culture générale, tant qu'ils se sont informés en amont sur leur sujet. Le citoyen n'a donc pas besoin d'être un érudit pour être un journaliste.
Toutes celles et ceux en fait, qui n'avaient pas accès aux médias de masse avant parce que ne faisant pas partie d'une élite intellectuelle, ben maintenant peuvent avoir une voix qui peut être entendue à l'autre bout du monde.
Pour Xavier Baudin-Hulin, au contraire, avoir fait des études supérieures est nécessaire au métier dans le sens où le journaliste est forcément un intellectuel qui possède une large compréhension du monde dans lequel il évolue. Pour lui, l'école de journalisme et la carte de presse ne sont pas des critères en soi pour être journaliste. Ils ne sont que des moyens, parmi tant d'autres, de développer les qualités nécessaires à ce métier. Ce n'est que lorsque l'on possède tous ses savoirs et ses savoir-faire que l'on peut se prétendre journaliste.
Je ne sais pas s'il y a besoin de faire des études de journalisme. Je pense que d'abord, il faut avoir une ouverture d'esprit et une vraie culture générale. Or, quelque part, c'est quand même les études secondaires, universitaires qui permettent d'avoir cette ouverture et de se confronter au savoir des autres, au savoir issu des générations anciennes et de pouvoir l'emmagasiner.
Une opinion que partage Édouard Chevalier, lui aussi intervenant au CNJ.
Il y a déjà plusieurs voies d'accès. Il faut savoir qu'il y a En France, il y a 20% des journalistes qui sont titulaires de la carte de presse, qui sont passés par les 14 écoles reconnues par la profession. Hein. Donc, on va dire que ces écoles-là forment le... C'est un laboratoire, hein, finalement. Hein. C'est un laboratoire pour des journalistes qui sont amenés à intégrer de grands médias. Mais il y a plein de voies, hein, pour devenir journaliste. Mais par contre, derrière, ça nécessite aussi des compétences. Et c'est vrai que dans une école journaliste, on les apprend à vitesse grand V, quoi.
Résumons dès lors ce qui oppose Fragile au journalisme traditionnel. Pour les journalistes professionnels que j'ai interrogés, les compétences qui font de nous un journaliste s'acquièrent en amont. Et ce n'est qu'une fois qu'elles sont acquises que l'on mérite son statut de journaliste. Il n'est donc pas étonnant qu'ils défendent la distinction entre le journaliste travaillant dans un organe de presse et le citoyen participant à la création et à la diffusion de l'information, quand bien même ce dernier travaillerait de manière journalistique, en tout cas au niveau de la méthode, justement parce qu'il n'a pas eu de formation dédiée à cette pratique. La carte de presse, le fait de travailler dans un organe de presse, sont des preuves supplémentaires que l'on a ses connaissances et ses savoir-faire associés au journalisme.
En fait, je pense que ça rassure, c'est quand même un socle. Hein. La carte de presse, c'est vrai que c'est pas un gadget, en fait. Hein. C'est pas un gadget, ça veut dire qu'on fait de l'info, qu'on est un professionnel de l'info. Et donc, ça évite toutes les dérives dans lesquelles on peut vite tomber. Moi, je pense que, alors après, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, donc je vais rien dire de très original, mais je pense que ça permet quand même d'avoir, il y a quand même une commission. Hein, une commission de professionnels qui défend certes ses intérêts, hein, comme toute corporation, mais derrière il y a des vraies valeurs et il faut les défendre parce que sinon, comme tu le disais, on peut avoir sur YouTube un lanceur d'alerte. Alors c'est bien que ça existe aussi, hein, mais qui derrière s'octroie, qui outrepasse en fait son champ d'action, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui voilà, faire de l'info, ça nécessite aussi de contrôler ses sources, ça nécessite aussi d'avoir un certain recul sur cette info, de ne pas la prendre au pied de la lettre, surtout à l'heure de l'instantanéité.
Donc, je pense que juridiquement, on a quelqu'un qui n'est pas employé dans une entreprise de presse et qui n'a pas non plus fait d'école de journalisme, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il soit journaliste. Maintenant, est-ce que il n'a pas le droit néanmoins de créer son propre média pour, à son niveau, essayer d'apporter un point de vue et donner la parole sur des sujets de prédilection, enfin, en tout cas qu'il affectionne particulièrement? Pourquoi pas? Donc, je pense qu'il faut vraiment différencier le juridique et les tendances qui font que, aujourd'hui, étant donné que les outils de production sont de plus en plus accessibles, aujourd'hui, c'est très facile de créer son propre podcast, de créer sa petite émission sur YouTube. Enfin, voilà, avec l'essor des réseaux sociaux et l'accès de plus en plus facile aux moyens de production, tout le monde, finalement, peut devenir son propre média. C'est pour moi ce qui va différencier la personne qui est certes très intéressante, hein, sur sa chaîne YouTube, mais qui n'a pas forcément tous les codes qu'on apprend dans les écoles ou au contact d'autres journalistes.
Fragile défend une vision beaucoup plus inclusive de ce statut. Pour l'association, le travail journalistique étant aussi le résultat d'une certaine expérience du monde que le journaliste possède, en dehors de ses connaissances, on ne peut pas dire qu'un article écrit par un journaliste du Figaro, par exemple, vaille mieux que le reportage d'un citoyen sur ce même sujet. Les deux sont complémentaires, ils apportent tous deux des informations différentes, issues de deux manières de concevoir le monde qui sont, elles aussi, différentes. Ce qui m'amène à me poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière le journalisme que la volonté d'informer? Est-ce que le média n'est pas aussi un outil de pouvoir? Est-ce que produire de l'information, est-ce que faire du journalisme n'est pas devenu un moyen pour les gens de participer à faire de la politique, d'exister au travers de la société et donc de la faire évoluer? Pour Fragile, cela ne fait aucun doute.
Le journalisme, en fait, et les journalistes, du coup, produisent des informations qui vont avoir un impact fort dans la décision des citoyens. En fait, en étant informé, on prend des décisions. Donc le journalisme et le fait de produire des informations, ça va forcément produire des décisions, des choix pour une population. Et puis le journalisme, c'est un contre-pouvoir.
C'est pas le pouvoir politique, c'est pas le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir d'une personne, d'un groupe de personnes, de comprendre la société, de divulguer des choses qui sont pas censées, enfin qui sont par certaines personnes pas voulu. Le droit d'informer, c'est, pour moi, c'est hyper important.
On vit dans une époque où les médias sont de plus en plus centrés sur l'interaction. Tout le monde peut partager et diffuser de l'information. Qu'est-ce qui nous empêche dès lors de la créer ? Cet enjeu, l'Éducation nationale l'a bien compris. Le document EduSchool consacré à l'éducation aux médias du CLEMI préconise la chose suivante. Dès lors que chacun peut endosser le rôle du journaliste, ou du moins du diffuseur d'informations, sans avoir connaissance de la méthodologie et de la déontologie requise, il est essentiel de développer la citoyenneté numérique des élèves et leur esprit critique. En étant enseigné à l'école, le journalisme est en train de se déprofessionnaliser pour devenir un outil d'émancipation citoyenne. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Mais je me pose tout de même la question, et je me la pose en tant qu'étudiante en cursus journalistique. Notre statut officiel, notre diplôme, notre carte de presse, est-ce qu'on ne s'y attache pas pour défendre cette distinction entre nous et les autres ? Parce que demain, si le citoyen et la citoyenne s'emparent du pouvoir médiatique, aurons-nous encore une légitimité à exister ? Pourrons-nous encore défendre le fait d'être payé pour être le porte-voix médiatique de la société si demain tout le monde devient journaliste ?
Facile pour eux d'avoir un ton, d'avoir un style identifiable, n'ont qu'à parler ou dire leur nom pour être tout de suite identifiables. N'ont pas besoin de tordre les mots, les expressions ou les clichés. À la TV, à la radio, n'ont qu'une phrase à répéter.
Champion Gartner, Radio Suisse Romande, Tokyo. Champion Gartner, Radio Suisse Romande.